La théorie fonctionne clairement. On ne peut pas négocier avec la gravité newtonienne. Le fait qu'elle présente ses défauts, si l'on veut, ses lacunes, ses mystères, indique simplement qu'il y a quelque chose de plus profond. Et dans ce cas, la chose la plus profonde est une révolution. L'invention de l'énergie noire et la prédiction incorrecte de l'énergie du vide indiquent-elles que quelque chose ne va pas fondamentalement dans nos théories scientifiques? Et encore une fois, nos intervenants ont chacun 3 minutes. Je vais commencer par Claudia Durham.
Bonjour. Merci, merci, merci beaucoup, Jacob. C'est vraiment génial d'être là. Merci à tous d'être là. Laissez-moi juste commencer par dire que nous pouvons penser que l'énergie du vide ou le problème de la constante cosmologique ou l'énergie noire sont un nouveau problème qui découle simplement d'observations ou d'une divergence entre la mécanique quantique et la gravité. Mais en fait, c'est bien plus vieux que ça. Vous dites à juste titre qu'il a 100 ans. C'est un puzzle vieux de 120 ans. Donc, il existe vraiment depuis la physique moderne, depuis le siècle dernier, déjà, Lodge l'a dit en 1907. Donc, avant la relativité générale, il avait compris que dans le vide, il était possible de créer des électrons, des anti-électrons, des particules, des antiparticules. Donc, dans le néant, il devait y avoir une sorte d'énergie qui, déjà à l'époque, il l'avait compris en 1907, devait correspondre à une source d'énergie. Or, à l'époque, avant la relativité générale, cette énergie était considérée comme le néant et n'avait aucun rapport avec la réalité. Depuis l'inspection de la relativité générale en 1915 par Einstein, il est entendu que même le néant, même quelque chose qui peut être considéré comme un niveau zéro d'énergie, a un effet sur la gravité, a un effet sur notre géométrie et a donc un élément de réalité. Et c'est là que le puzzle a commencé à se poser et à comprendre si ce vide, cette énergie qui est présente partout dans cette pièce mais aussi au milieu de nulle part dans l'univers, pouvait avoir un effet sur l'évolution de l'univers. Et déjà en 1920, grâce à la NUST, en 1927, grâce aux lentilles, on comprenait que si l'on prenait simplement en compte l'effet des électrons, dont on sait qu'ils sont des particules, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ce sont des particules. On comprend extrêmement bien leur masse. Il devrait avoir un effet sur la courbure de l'espace-temps, ce qui signifiait qu'à l'époque, déjà en 2027, l'espace-temps s'étirerait tellement que l'on ne pourrait même pas voir la Lune. Cela a déjà été dit en 1927, et par l'équilibre temporel. On lui attribue souvent une grande importance, mais c'est quelque chose d'assez ancien et qui remonte vraiment au tout début de la mécanique quantique. Donc, cela fait très longtemps que nous le savons. Je dirais qu'il est légèrement trompeur de dire qu'il y a nécessairement un écart de 120 ordres de grandeur avec le modèle standard, car ce n'est que si nous considérons qu'il devrait y avoir des particules qui ont une masse allant jusqu'à l'échelle de la gravité quantique, et elle reviendrait à notre géométrie qu'il y aurait des écarts de 120 ordres de grandeur. Donc l'écart avec un modèle standard n'est pas du tout si élevé, et en fait, il n'y a pas nécessairement d'écart parce que c'est le néant, dans un certain sens, l'énergie présente là-dedans, si nous utilisons nos outils actuels de mécanique quantique et, en fait, la théorie quantique des champs, il devrait dire qu'il y a une quantité infinie d'énergie là-dedans. Nous devons donc comprendre comment donner un sens à cette infinité et, avec les outils dont nous disposons pour le moment, nous avons l'impression que nous devrions toujours avoir un niveau d'énergie présent dans le vide, qui est bien trop élevé par rapport à nos observations actuelles. Et cela devrait conduire à une expansion accélérée de l'univers.
Merci Claudia. Bjorn, continuez. Merci. Je dirais donc que l'énergie noire est le symptôme d'un malaise plus profond au sein de toute la structure du modèle cosmologique et l'énergie noire n'est pas la seule invention à avoir permis à ce cadre théorique de se développer. La cosmologie est différente de beaucoup d'autres sciences. Elle opère vraiment à la limite de la connaissance. Et comme votre introduction l'a clairement indiqué, nous parlons d'ordre de grandeur si vaste qu'il est vraiment ahurissant de penser à l'ampleur de tout cela. Pour mettre les choses en contexte, le modèle de relativité générale einsteinien que nous avons pour l'univers est le suivant. Si nous examinons les preuves empiriques dont nous disposons et la confiance que nous avons quant à la distance qu'il s'étend au-delà de notre propre système solaire et dans notre galaxie, on estime que cela représenterait environ 0,1% du total de l'univers pour lequel nous sommes raisonnablement sûrs que le modèle einsteinien est effectivement valable. J'ai mentionné cela au début, car il est important de comprendre l'ampleur et l'effort intrépide de ces physiciens très estimés sur ce site. Quiconque travaille en cosmologie est confronté à un mystère géant. Et la simple idée que nous soyons capables de tout savoir pleinement et d'avoir un modèle mathématique universel qui le cartographierait est une croyance fondamentale dans l'histoire de la science et une croyance fondamentale dans la cosmologie elle-même qui régit la discipline. Cependant, lorsque l'on se heurte à des divergences comme celle-ci, qui sont discutables, mais des inventions comme l'énergie noire, il devient clair que ce cadre théorique de la cosmologie repose en réalité sur de multiples théories. Ce n'est pas une seule théorie. J'ai déjà eu tendance à l'appeler une sorte de tour de Jenga. C'est comme une tour bancale composée de plusieurs blocs de construction les uns sur les autres. L'énergie noire est l'une des plus récentes à rendre compte de cette observation fondamentale et de la divergence avec le modèle théorique existant. Donc, tous ces efforts et ces inventions sont vraiment là pour faire fonctionner le modèle, car ils sauvent le cadre théorique global. Il existe une profonde réticence au sein de la cosmologie et une quasi-impossibilité de repenser réellement le modèle à partir de la base, car la cosmologie est devenue en quelque sorte dépendante de certaines des hypothèses fondamentales. Donc je pense que ce serait d'emblée une raison de se demander dans quelle mesure nous connaissons réellement le genre de choses que nous prétendons savoir. Merci Björn Raphaël. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Je dirais peut-être que j'espère qu'il y a quelque chose de fondamentalement faux en physique. Nous devrions avoir beaucoup de chance. C'est comme ça que la physique progresse. Et je veux peut-être comparer cette prédiction prétendument si terrible à d'autres situations auxquelles les physiciens ont été confrontés dans le passé, qui ont conduit à beaucoup de progrès. N'est-ce pas? Par exemple, lorsque Newton a inventé la force gravitationnelle comme moyen d'unifier le ciel et la Terre et d'expliquer pourquoi la pomme tombe et comment les planètes se déplacent. Je veux dire que c'était une grande avancée, mais vous pourriez légitimement vous plaindre qu'il a juste inventé quelque chose avec cette force. Qu'est-ce que cette chose est censée être? Qu'est-ce que c'est vraiment? N'est-ce pas? C'est une construction mathématique, c'est une formule que l'on utilise pour calculer des trucs, mais vous savez, elle nous mène sur la Lune. Et on l'utilise encore dans presque toutes les situations où l'on veut savoir ce que la gravité va faire. Pire encore, il a dû peaufiner sa théorie à l'infini. Il a dû dire que la chose qui gravite et la chose qui résiste à la poussée, la masse inertielle et la masse gravitationnelle, sont exactement la même chose. Elles sont proportionnelles l'une à l'autre. On ne voit pas ça dans d'autres théories. La charge électrique n'est pas la même chose que la masse inertielle, et c'est pour ça que certaines personnes ressentent de l'électricité. Certaines personnes, oui, certaines particules ressentent de l'électricité et d'autres non. Et donc on aurait pu avoir toutes ces plaintes comme quoi la théorie est pourrie jusqu'à la moelle. On ne la présente généralement pas de cette façon. On la présente comme une opportunité de réfléchir à ce qui pourrait arriver ensuite. La théorie fonctionne clairement. On ne sait pas, on ne peut pas négocier avec la gravité newtonienne. Et donc le fait qu'il y ait ces défauts, si vous voulez le dire ainsi, ces lacunes, ces mystères, indiquent simplement qu'il y a quelque chose de plus profond. Et dans ce cas, la chose la plus profonde est une révolution. Einstein a découvert que la gravité est à un niveau plus fondamental la courbure de l'espace et du temps et que les choses essaient simplement de se déplacer aussi droit que possible dans cet espace-temps incurvé. Et dans ce langage, ce n'est pas du tout une force. Et nous savons que ce langage est meilleur parce qu'il décrit plus de choses différentes. Mais aussi tout ce que Newton a pu décrire. Mais dans ce langage, nous voyons que son langage que nous utilisons, même dans nos théories les plus réussies, est toujours temporaire. Et les défauts d'une théorie solide qui fait beaucoup de prédictions sont une opportunité. Un autre exemple était à la fin du 19e siècle, les gens avaient cette merveilleuse théorie appelée thermodynamique et elle expliquait la machine à vapeur et beaucoup d'autres choses et elle était clairement extrêmement réussie. Mais encore une fois, elle avait un défaut fatal. Elle prédisait que cette table devrait rayonner une quantité infinie d'énergie. C'est à peu près le même niveau. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas la pire prédiction de l'histoire de la science dont nous parlons aujourd'hui. Pour continuer à regarder cette vidéo, cliquez sur le lien en haut à gauche ou dans la description ci-dessous. Avec un essai gratuit, vous pouvez profiter de l'intégralité de la conférence et de milliers d'autres. Merci de participer à la conversation.